Merci Jean-Pierre pour l'introduction, et puis Eric pour l'introduction à la Sainte-Cène qui nous a rappelé les indicibles souffrances que Jésus a dû endurer pour notre salut. Il porte son nom à merveille, le Sauveur du monde, celui qui a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé par Dieu le Père. Une mission de salut, Sauveur. On va lire un texte, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, dans le psaume au chapitre 71, et nous lirons le verset 8. Psaume, chapitre 71, verset 8. Et il est tiré d'un chapitre, d'un chant, intitulé « Prière pour le temps de la vieillesse ». Et ce ne sera pas le sujet de notre réflexion de ce matin. Et il dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Que ma bouche soit remplie de toutes tes louanges et que chaque jour elle te glorifie. » Voilà ce qu'écrit, ce que chante, ce que psalmodie le psalmiste. On va prier ensemble, si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour ce temps de louange où nous avons pu faiblement t'apporter ce à quoi tu prends plaisir. Seigneur, maintenant nous voulons nous arrêter quelque peu pour écouter ta parole et pour pouvoir progresser dans notre cheminement avec toi. Ta parole est là, précieuse, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éduquer dans la justice et pour nous corriger. Béni sois-tu parce que tu nous l'as laissé, Seigneur, comme une boussole qui nous montre le chemin à suivre. Nous nous attendons à toi et nous voulons te louer pour cette parole précieuse que tu as mis à notre disposition. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous connaissez Saint François, celui qu'on appelle souvent Saint François d'Assise. Non ? François d'Assise, c'est le fondateur de l'ordre des franciscains. 12e, 13e siècle. Un homme qui a été réputé pour les cantiques qu'il a écrits, les nombreux cantiques qu'il a écrits en l'honneur de Dieu. François d'Assise. Et on raconte qu'un jour, ce François d'Assise, qui s'émerveillait régulièrement devant la création, alors qu'il se promenait dans la campagne, avec un de ses disciples, Rufin, j'allais dire Rufus, mais ça il y a que Jean-Paul qui les connaît, celui-là. Rufin, eh bien, à un certain moment, en entendant les oiseaux, Saint François d'Assise a commencé à lever les mains vers le ciel pour louer l'Éternel, en disant, je te loue, mon Seigneur, je te bénis, mon Seigneur, pour le gazouille des oiseaux. Et le frère Rufin de poursuivre, d'ajouter, oui Seigneur, nous te louons. Sois loué. Et puis, devant le bruit des cascades, François d'Assise bénissait le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour le murmure des cascades. Oui, Seigneur, je te bénis, ajoutait Rufin. Seigneur, je te bénis pour l'air frais, la fraîcheur des sous-bois. Oui, Seigneur, sois béni, rajoutait le frère Rufin. Seigneur, je te bénis pour ce paysan qui ensemence le champ et qui promet des récoltes abondantes. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Et puis le frère Rufin, il en avait un petit peu assez, un petit peu marre des litanies qu'il entendait de la part de François. Et alors, ils sortent du bosquet et ils se trouvent en dessous d'un chêne dans lequel a élu domicile une colonie de tourterelles. Et puis, arrive ce qui doit arriver. Il y a une des tourterelles qui dépose une déjection qui tombe juste sur la tête de François d'Assise. Et alors, d'un coin de l'œil, son disciple à côté, là, se dit, mais qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il pense, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore louer le Seigneur maintenant? Et puis, François d'Assise, avant même qu'il ait terminé sa mauvaise pensée, lève les bras au ciel et il dit, Seigneur, sois béni parce que tu n'as pas donné d'aile aux vaches. Ça nous fait sourire, mais ça introduit bien le sujet, le thème sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions ce matin et que nous avons lu à travers le psaume 71, verset 8, que ma bouche soit remplie de tes louanges Et François d'Assise avait compris l'importance de louer Dieu. Et souvent, on confond, on fait le mélange entre la louange et l'adoration et les actions de grâce. On ne sait pas trop ce qu'est une louange, ce qu'est l'action de grâce, ce qu'est l'adoration. L'action de grâce, c'est tout simplement dire, être reconnaissant envers Dieu, dire merci, le remercier pour tout ce qu'il nous accorde, pour tout ce qu'il accomplit en notre faveur. La louange, elle ne demande rien à Dieu. Elle le glorifie, vante ses mérites, ses actions, ses accomplissements, ses agissements. La louange, en quelque sorte, est une manière d'apprécier ce qu'on reçoit de Dieu. C'est une éloge qu'on lui attribue, une éloge pour ses bienfaits, une éloge pour toutes ses bénédictions, tous ces bienfaits qu'il nous accorde. Ça, c'est la louange. Tandis que l'adoration, quant à elle, elle s'oriente plus sur ce que Dieu est. Il est saint, il est puissant, il est charité, il est juste, il est patient, compatissant, ce que Dieu est. Et les termes hébreux comme grecs signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui rendre, se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner le respect qui lui est dû. Proskinéo en grec. Et on entend bien dans ce terme le verbe se prosterner. Donc l'adoration, en quelque sorte, consiste à se prosterner en forme de témoignage et pour témoigner une forme de respect envers Dieu. Les mages, quand ils sont allés visiter Jésus, ils se sont prosternés devant Jésus pour l'adorer. Les anges, nous rapporte Apocalypse chapitre 7, verset 11, se prosternent devant Dieu pour l'adorer. Le dixième lépreux, celui qui a rebroussé chemin pour retrouver Jésus qui l'avait guéri, s'est prosterné devant lui pour l'adorer. Et puis Josaphat, dont on reparlera un petit peu plus tard, Josaphat et tout le peuple d'Israël s'est mis face contre terre, le peuple est tombé pour adorer Dieu. Donc la louange, d'une part, met en évidence les agissements, les accomplissements, ce que Dieu nous accorde comme multiples grâces. L'adoration, quant à elle, nous oriente plus vers la nature et la personne de Dieu. Tous ses attributs, toutes les facettes qui représentent sa différente nature, ses attributs. La louange, elle peut nous conduire à l'exaltation, à la joie. L'adoration, quant à elle, elle sera davantage empreinte d'humilité. Proskinésis, le fait de se prosterner devant Dieu. C'est une marque d'humilité. L'être humain est conscient, lorsqu'il adore, de son insignifiance, de sa petitesse, devant la grandeur éclatante du Dieu auquel il s'adresse, du Dieu qu'il adore. Ça, c'est la différence entre la louange et l'adoration. Beaucoup s'imaginent aussi que la prière se limite seulement à une demande qu'on adresse à Dieu. Un petit peu comme si on venait devant Dieu avec sa liste de courses. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, permets que cela, fais que ceci, fais que cela. Mais la prière, c'est plus que cela. La prière, c'est davantage qu'une simple demande faite à Dieu. Et vous savez, si une demande est adressée à Dieu sans être accompagnée d'action de grâce ou de louange, elle risque d'être stérile. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le texte que nous connaissons bien, que nous rappelons assez régulièrement, de l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 4, le souligne. Hein. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La prière de supplication doit être accompagnée de louanges et d'actions de grâce. Dieu aime quand on le loue. Dieu prend plaisir à nos louanges. Apocalypse chapitre 4 verset 11 dit ceci, « Oui, Dieu est digne de nos louanges. Il est digne de recevoir nos louanges. » Ça fait plaisir de louanger. Quand on louange quelqu'un, parce qu'une cuisinière, une sœur ou une cuisinière qui a préparé un bon repas semble bon à ses convives, ben la cuisinière, elle est contente de recevoir les éloges par rapport à son repas. On aime les éloges. Hein? Jean-Pierre aime bien que Dieu lui dit, mais je lui dis jamais rien. Alors. Mais on aime entendre les éloges, et Dieu aime entendre nos éloges. Dieu aime entendre nos prières de louange. Il aime lorsque nous le louions. Il est digne de recevoir nos louanges. Et puis Ésaïe 43, verset 21, nous dit que ben, Dieu, si nous avons été créés, c'est pour louer Dieu. Oui. Le peuple de Dieu doit publier ses louanges. Je crois que je l'ai ici. Ésaïe 43, verset 21, dit ceci. « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Nous avons été créés pour louer Dieu. D'où l'importance de la louange. Et l'apôtre en Colossiens chapitre 5, verset 15 à 17, écrit ceci. « Soyez reconnaissants. » Mais la reconnaissance, les actions de grâce, sont une forme de louange que nous adressons à Dieu. Soyez reconnaissants. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un devoir que nous avons de louer Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16 à 18, ce même apôtre écrit « Rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu que nous lui rendions la gloire, la grâce et les louanges qui lui reviennent. Si nous ne louons pas Dieu, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous n'accomplissons pas sa volonté. Dieu nous a créés pour l'adorer. Pourquoi la louange est-elle si importante pour Dieu ? Pourquoi la louange est-elle si importante pour Dieu ? Eh bien, la louange, nous dit le psalmiste, est importante pour Dieu parce que c'est le lieu, l'endroit, le milieu dans lequel Dieu nous rencontre. Dieu nous rencontre à travers sa parole, à travers la méditation, mais Dieu nous rencontre aussi à travers la louange. Que dit le psalmiste ? C'est un verset que nous connaissons bien aussi, celui-là. Au chapitre 22, verset 3, « Dieu siège ou bien habite ?» C'est la même chose. Un hébreu, si vous lui demandez où il habite, il va dire « Je siège à Jérusalem, par exemple. » Dieu siège ou Dieu habite au milieu des louanges d'Israël. Voilà le lieu de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la louange est importante. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ou des louanges de son peuple. Dieu aime et agrée nos louanges. En 2 Chroniques au chapitre 5, nous voyons que lorsque ceux qui sonnaient les instruments et ceux qui chantaient s'unirent pour louer Dieu, lorsque l'on a amené l'arche de l'Alliance dans la maison de l'Éternel, que s'est-il produit ? Eh bien, il y a eu l'apparition de la Shekinah, de la nuée, qui est la manifestation de la présence et de la gloire de Dieu. Voilà ce qui s'est passé suite à la louange offerte par le peuple en l'honneur de l'Éternel. La louange est importante pour Dieu, et le plus grand livre de la Bible n'est qu'un recueil de louanges destinées à Dieu, le livre des psaumes. C'est dire ô combien la louange est importante pour Dieu et ô combien la responsabilité que nous avons en tant que peuple de Dieu est de le louer. Psaume 71, verset 6, et le psalmiste écrit « Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » François d'Assise, Dieu était sans cesse l'objet de ses louanges. D'autres chrétiens s'exclament dès la moindre merveille qu'ils rencontrent, dès la moindre bénédiction qu'ils reçoivent de la part de Dieu, ils s'émerveillent et s'orientent vers Dieu à travers la louange. Psaume 34, verset 2, « La louange, dit le psalmiste, sera toujours dans ma bouche. » La louange sera toujours dans ma bouche, dans les bons moments comme dans les moments plus pénibles. La louange sera toujours dans ma bouche. Et quelqu'un a dit, la louange est une semence dont le fruit produit une plus grande intimité avec Dieu. La louange est une semence dont le fruit produit une plus grande proximité, intimité avec Dieu. La rencontre de Dieu à travers la louange. Les sujets de louange sont tellement diversifiés et nombreux. C'est vrai, hein? On peut louer Dieu pour tout. Pour tout. D'ailleurs, c'est encore l'apôtre Paul qui le souligne dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 20. Il écrit, « Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. » Pour tout. Merci Seigneur, je te loue pour le toit qui m'abrite. Je te loue pour la nourriture que j'ai tous les jours. Je te loue pour le vêtement que je porte. Je te loue pour l'eau dont je bénéficie tous les jours. Je te loue pour les saisons. Je te loue pour le soleil. Je te loue pour ta présence à travers l'épreuve. Je te loue pour la guérison que tu m'apportes. Je te loue pour les multiples bénédictions dont je suis l'objet. Je te loue pour le salut dont je suis le bénéficiaire. Et puis on ne sait plus s'arrêter. Rentrons dans la louange, et puis on a difficile de s'arrêter, pendant tellement notre esprit est conduit par l'Esprit de Dieu pour louer Dieu. On ne sait plus s'arrêter, on continue. On revient à François d'Assise. On ne pense plus à l'introduction. Mais il a écrit beaucoup de beaux cantiques, et j'aimerais faire la lecture de l'un d'entre eux, qui est un cantique de louange et qui s'intitule le cantique des créatures. Le cantique des créatures. Et je lis ce qu'il a écrit au XIIIe siècle. Très haut, tout puissant et bon Seigneur, à toi les louanges, la gloire et toutes les bénédictions. Sois loué. Loué sois-tu, pardon, mon Seigneur, pour toutes les créatures, et spécialement pour notre frère, le soleil, qui nous donne le jour, et par qui tu nous éclaires. Il est beau et rayonnant. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la lune, et pour les étoiles dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air et les nuages, le ciel pur, et pour tous les temps. Pas seulement le printemps, pour tous les temps. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, elle est utile, si précieuse et si pure. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le feu, par qui tu nous illumines la nuit, il est beau, joyeux et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit. Elle nous donne ses plantes et ses fruits colorés. Loué sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à cause de ton amour. Et enfin, loué et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec beaucoup de simplicité. François d'Assise. Dieu aime la louange. Dieu aime être loué. Nous avons été créés pour louer Dieu. C'est notre sacerdoce. Nous sommes invités à louer Dieu continuellement. Les anges louent Dieu. Psaume 148, verset 2. La nature, à sa manière, loue Dieu. Psaume 148, verset 3 à 10. Tout ce qui respire loue Dieu. Psaume 150, verset 21. Il n'y a que les morts qui ne louent pas Dieu. parce qu'il ne respire pas. Nous respirons, nous ne sommes pas morts, donc nous devons louer Dieu. Loue et le Seigneur, car il est digne de recevoir nos louanges. Il y a tellement d'enseignements à tirer de la louange, de la dimension de la louange, mais il me semble qu'il y a une de ces dimensions qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne devrait pas négliger et prendre en considération, c'est la puissance de la louange. La puissance de la louange. La louange est une force à travers laquelle Dieu manifeste sa puissance. Je m'écris « Loué soit l'Éternel », écrit le psalmiste, « et je suis délivré de tous mes ennemis ». La puissance de la louange. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Le diable est horrifié. Il fuit, il tremble devant la louange. Et c'est souvent dans la parole de Dieu, à travers ou pendant la louange, que se manifeste le plus souvent la puissance de Dieu. Que Dieu délivre sa puissance, manifeste sa puissance. Souvenons-nous des murailles de Jéricho. Une ville fortifiée, aux murailles épaisses, hautes, imprenables, infranchissables. Dès que les Lévites ont commencé à souffler dans les cors et que le peuple a commencé à lancer des cris de victoire, les murailles se sont écroulées. La manifestation de la puissance de Dieu est apparue. Sans que le peuple ait eu même à combattre, la victoire sans combattre, la puissance de Dieu. Et puis il y a d'autres murs qui ont tremblé. Hein. Il y a d'autres murs qui ont tremblé dans le Nouveau Testament. Ceux de la géole, ceux de la prison dans laquelle Paul et Silas étaient incarcérés, injustement. Ils avaient été battus. On les avait jetés dans la prison. Ah, ils auraient pu lever le poing vers le ciel et dire, tu vois Seigneur, on a parlé de toi, on a délivré une personne qui était possédée là, par un esprit de python, et nous voilà maintenant injustement mis en prison. Et à minuit, quand il fait, ils ont célébré et loué l'Éternel, le Seigneur. Ou les autres prisonniers, ils ont dû n'y rien comprendre. Mais que s'est-il passé? À minuit, dès qu'ils ont commencé à célébrer et à louer Dieu, les murs de la prison ont commencé à trembler, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont brisées, ils étaient libres, ils étaient délivrés par la puissance de la louange. Par la puissance de la louange. Et puis il y a d'autres exemples comme le miracle de la multiplication des pains a suivi les actions de grâce que Jésus a présentées à son Père. Et puis, l'action de grâce a aussi précédé le plus grand miracle de Jésus lorsqu'il ressuscita Lazare. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu la gloire à Dieu. Et puis, la puissance de Dieu s'est manifestée pour faire revivre Lazare qui était dans le séjour des morts. C'est encore pendant que les disciples, peu de temps après l'ascension, Jésus leur a enjoint d'attendre patiemment le cadeau du Saint-Esprit. Et alors, le texte de Luc, chapitre 24, verset 53, nous dit que les disciples étaient tous les jours dans le temple en train de célébrer, de louer Dieu. Et que s'est-il passé 10 jours après l'ascension? La venue du Saint-Esprit qui a rempli la vie des disciples qui étaient en train de louer Dieu. Et s'en est suivi la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu tout au long de l'histoire de l'Église primitive. L'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit qui a agi au point d'arracher des âmes à l'enfer. Chaque jour, nous dit le texte biblique, alors que les chrétiens étaient assidus dans le temple et louaient continuellement Dieu, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. La puissance de la louange, la puissance de la louange. Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein ? Il était dans le ventre du poisson, enfermé, dans les profondeurs de la mer. Et puis dès qu'il a commencé au chapitre 2, verset 10, si je me souviens bien, à louer Dieu, le poisson l'a recraché sur le rivage. La puissance de Dieu s'est manifestée à travers la louange que Jonas a apportée à l'Éternel. Et puis, un dernier exemple. Dernier exemple. On a fait référence tout à l'heure au roi Josaphat, roi de Juda, quand il a appris que les Ammonites et les Moabites approchaient pour envahir le royaume de Juda, il a paniqué, mais Dieu lui a montré qu'il allait avoir la victoire. Et puis, à un certain moment, Josaphat et tout le peuple se mirent à adorer Dieu, à louer Dieu, à louer et à célébrer l'Éternel. Et que s'est-il passé ? Dieu leur a donné la victoire. Il a mis une embuscade dans le camp des Ammonites et des Moabites. Ils se sont entretués. Et les Israélites n'ont même pas eu besoin de combattre. La victoire, encore une fois, sans combattre, par la puissance de la louange. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, écrit le texte de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22, « L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. » Et ils furent battus. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ce n'est pas une formule magique. Il n'y a rien de... Ça serait un tort de tomber dans ce piège. Mais à travers les Écritures et à travers moult exemples de l'histoire de l'Église, on peut vérifier que, à travers la louange, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a démontré sa puissance. Dieu a accompli de grandes choses. Et j'ai ce sentiment que si dans nos vies individuelles, je ne parle pas au niveau collectif, mais si dans nos vies individuelles on néglige la louange, on passe certainement à côté de quelque chose d'important. On passe à côté de la puissance surnaturelle de Dieu. Conclusion. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à négliger si souvent la louange dans nos vies ? Pourquoi est-ce qu'on la met de côté ? Peut-être parce qu'on est notre âme est découragée, peut-être parce que nous sommes attristés, peut-être parce que notre âme connaît un moment de déprime, peut-être parce que nous sommes assaillis par les tracas, par les difficultés de la vie, par les soucis, par les problèmes divers. Pourtant, le fait de rentrer dans la louange de Dieu nous décentralise de notre moi. Et la louange nous apporte réconfort, paix, sécurité, force et bien-être spirituel. Mais il y a un autre obstacle. Il y a un autre obstacle à la louange. Vous connaissez cet obstacle à la louange ? Cet autre obstacle à la louange, c'est le temps. On n'a plus le temps de louer Dieu. On ne prend plus le temps de louer Dieu. On ne prend plus le temps de louer Dieu. La louange, nous dit Hébreux 13, versets 15 et 16, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, ça coûte quelque chose. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. La louange, c'est un sacrifice. Et peut-être, il nous faut réévaluer notre temps, reconsidérer nos activités, reconsidérer nos priorités pour pouvoir mettre de nouveau à l'honneur la louange si importante que Dieu attend de ses enfants, de chacun de ses enfants. C'est là le prix. Le prix à consentir pour pouvoir expérimenter à travers la louange la présence d'une part de Dieu, mais aussi son action. son action surnaturelle. Et alors nous pourrons dire avec le psalmiste, comme nous avons lu en introduction, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Que Dieu nous aide à considérer pour chacune de nos vies l'importance de la louange. Il prend plaisir à la louange. Il est digne de louange et il veut manifester sa gloire et sa puissance à travers notre louange, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous sommes appelés à passer.